CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce magazine d'actualité dans lequel on va parler d'androchronologie. C'est pas un gros mot là, d'androchronologie, c'est une méthode de datation par le bois, une méthode utile notamment pour le patrimoine. On entendra un reportage in situ à la Maison des Loups de Caylus avec les dendrochronologues qui nous expliqueront ce qu'ils font. Mais avant, on resitue le contexte. Ils sont venus sur demande du service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy.
CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Sandrine Ruefli et Carole Stadnicki, service inventaire du patrimoine du PETR Midi-Quercy.
Bonjour. Alors la dendrochronologie, qu'est-ce que c'est ? C'est un système de datation par le bois qui affine une datation initiale, mais les dendrochronologues développeront tout ça tout à l'heure. Il y a un petit reportage qui va suivre. Ces dendrochronologies, elles sont financées par la région Occitanie. Mais l'étude des bâtiments que l'on a sélectionnés est faite par le service inventaire du PETR. Donc il y a quatre sites qui ont été choisis, quatre maisons. Il y en a deux à Caylus, la maison des Loups et une grande maison, le 28 rue Droite, et une maison médiévale à Montricou, où a été découverte une peinture murale, la fameuse fileuse. Et enfin, une maison en campagne à Caussade, au lieu dit Le Soulier. Voilà.
Le point commun de toutes ces maisons, c'est évidemment le bois. Ce sont des maisons qui sont construites en pan de bois ou alors qui ont des cloisons intérieures en bois ou des charpentes suffisamment intéressantes pour qu'on veuille savoir précisément quand est-ce qu'elles ont été construites.
Ces techniques de dendrochronologie ne se suffisent pas elles-mêmes. Il faut au préalable avoir étudié, avoir soit des éléments historiques ou avoir une lecture bien évidemment du bâti pour obtenir des résultats les plus fiables possibles.
Et dans les quatre cas, en général, on est donc plus sur du pan de bois en structure porteuse ou en cloison. Et l'unique cas de charpente prélevée sera sur la fameuse maison des Loups à Caylus, puisque c'est un bâtiment qui est classé monument historique seulement en façade depuis 1921. Mais l'intérieur de la maison est totalement inconnu. Et du coup, il est très intéressant de savoir si cette charpente daterait du 14e, comme l'est la façade de la maison des Loups. Mais peut-être les dendrochronologues nous diront qu'elle date du 18e.
À la Maison des Loups, mardi dernier, à Caylus, l'entreprise Dendrotech procédait à des prélèvements pour dater le bois de construction grâce à une méthode associant dendrochronologie et archéologie. Le dirigeant de Dendrotech, Yannick Ledigol, dit « Là où certains experts du patrimoine travaillent à partir des textes, notre originalité devrait à partir du matériau bois. À travers les cernes des arbres qui constituent de véritables frises chronologiques et grâce à la précision de nos résultats, nous touchons du doigt la grande histoire et apportons une autre perspective sur le patrimoine. Notre métier, au-delà de dater et de comprendre les traces laissées par les charpentiers, donner du sens au patrimoine, écrire ses mémoires. Le bois a beaucoup de choses à nous apprendre si l'on veut bien se laisser surprendre. » Reportage.
Ok, donc je m'appelle Axel Marais, je travaille pour la société Dendrotech qui est basée à Angoulême. Donc le principe, c'est qu'on est là, nous, pour dater des structures en bois en travaillant, en prélevant les pièces de charpente. Parce qu'il ne faut pas oublier que le bois, avant de devenir un matériau de construction, c'est un arbre. Un arbre qui pousse au rythme du climat. Les bonnes années, il va prendre beaucoup de diamètre. Les mauvaises années, il va en prendre beaucoup moins. Et donc c'est cette variation dans le rythme de croissance qui nous permet de dater les pièces de charpente. En sachant exactement quand elles ont poussé, on va déduire quand le bois, l'arbre a été abattu. Et indirectement, avec cet abattage, vu que pour les périodes anciennes, le bois n'est pas séché, et bien quand on date l'abattage, on date la construction à quelques mois, quelques semaines près. Et donc c'est exactement pour ça qu'on est là ces derniers jours. C'est pour dater différentes structures sur les bâtiments qui nous ont été sélectionnés pour réussir à obtenir des dates qui correspondront vraiment à la mise en œuvre des structures en question. Ça peut être des planchers, ça peut être des pans de bois, et ça sera aussi des charpentes.
Alors là on est au dernier étage, on m'a dit que ça avait une importance, j'ai pas compris pourquoi.
Parce qu'en fait les bâtiments sont rarement simples. Il y a différentes phases qui caractérisent leur chronologie de construction. Il y a une construction initiale qui permet effectivement d'avoir les premiers murs, mais après, au fur et à mesure que le bâtiment vit, que les besoins évoluent, on peut les agrandir, on peut reprendre leur distribution, on peut vraiment les adapter aux besoins des gens qui occupent le bâtiment. Et donc, du coup, sur un bâtiment qui a vécu pendant des siècles, on n'a pas forcément la trace de toutes ces modifications. On ne peut pas forcément dire, en regardant un bâtiment de prime abord, bon ben là, le premier étage est de telle date et le dernier il est de telle date. Donc il y a des études qui sont menées par des spécialistes pour réussir à faire une chronologie de construction de ces bâtiments, et on fait partie de ces spécialistes parce qu'en datant directement la construction, on peut effectivement avoir des datations très précises sur chaque aspect du bâtiment. Alors quand je dis très précis, justement, la précision dans les cas les plus favorables, ça peut être à la saison près. Il y a deux saisons dans la vie d'un arbre, il y a le printemps-été et il y a l'automne-hiver. Et en fonction des dernières fibres qu'on va réussir à voir sur l'échantillon, lorsque cette partie-là est conservée, parce que bah, du coup les pièces aussi peuvent être dégradées par le temps ou écarries au moment de leur construction, mais des fois on a de la chance, cette partie-là est conservée et on peut vraiment dater le bois à la saison près.
Vous ponctionnez des carottes, qu'est-ce que vous faites en fait?
Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est qu'on va sélectionner les pièces qui sont les plus aptes déjà. Comme je disais, toutes les pièces ne permettent pas d'avoir la même précision et elles n'ont pas aussi toute la même capacité à dater. Donc dans une structure, on va regarder quelle est l'emprise de la structure qui nous intéresse, quelles sont les pièces qui s'y prêtent le mieux à l'intérieur, et après on va réaliser des carottages à l'endroit le plus pertinent pour avoir les meilleurs résultats. C'est des carottes qui font à peu près 1 cm de diamètre par 25 cm de long.
Et quand on fait ça dans une poutre porteuse, ça pose pas de problème?
Alors justement, voilà, on fait en sorte que ce n'ait aucune incidence mécanique. Mais pour remettre les choses dans leur contexte, les trous qu'on fait sont de dimensions comparables aux chevilles des charpentiers. Donc c'est quelque chose qui est très courant sur les bois de construction.
Donc là, votre travail aujourd'hui à Keilus, donc sur invitation du service inventaire du PETR Médicarcy, c'est de donc prendre des petites carottes un petit peu partout dans les bâtiments qui sont sélectionnés. Vous creusez un petit trou, vous chopez le truc et puis après...
Du coup, je me laisse un support visuel pour m'aider à expliquer. C'est qu'en fait, on a un outil qui s'appelle une carotteuse, qui est en fait un forêt creux. C'est comme les outils à bois qu'on a tous dans nos caisses à outils, sauf que celui-ci est de diamètre un peu plus important. Il fait 16 mm de diamètre extérieur et au milieu... Dans l'âme du forêt, il y a vraiment un trou qui permet de garder une carotte. Et cette carotte-là, elle fait 1 cm de diamètre. Et donc, c'est monté sur un outil qui est assez courant, qui est une perceuse. Et après, ben justement, c'est le coup de main, c'est l'expérience qui fait qu'on va faire le bon prélèvement avec cet outil-là, au bon endroit, pour avoir quelque chose d'exploitable ensuite en laboratoire. 25 cm d'inox. Voilà, ça c'est visuel. C'est vrai qu'il y a un côté sonore aussi, mais...
Bon, et vous faites quoi là?
Et bien là, du coup, il doit être en train de monter sur la charpente pour voir s'il n'y a pas des pièces qui s'y prêtent. Donc, j'espère qu'il ne va pas revenir trop sale, du coup, parce qu'après, il va ruiner le camion. Et qu'il ne passe pas non plus à travers le plancher, parce qu'il y a un côté risqué aussi dans tout ça. Mais là, du coup, on va s'intéresser à cette potentielle surélévation du bâtiment. Et donc, on va regarder toutes les pièces, les unes après les autres, pour voir justement si dans cette cloison là, qu'on voit ici, il y a des pièces qui se prêtent plus à la datation en termes de précision et de capacité à dater.
Ça, vous le regardez à l'œil, comme ça, vous regardez une planche de bois et...
Oui, c'est l'expérience, un peu comme le bon et le mauvais chasseur. Il y a le bon et le mauvais bois. Et du coup, c'est dur à expliquer, mais... Avec l'expérience, on peut réussir à deviner, ben, ça, ce bois-là, il va dater, et celui-là, il ne va pas dater. C'est tout simplement, en regardant le bois, on peut réussir à avoir une idée du nombre de cernes qu'il y a de présence sur la pièce. Plus il y a de cernes, plus il y aura de capacité à dater, plus de facilité à dater. Et du coup, quand on voit de l'écorce, alors là, on sait qu'en plus, on aura la précision. Et donc, c'est tout ça, bois après bois, on va se dire combien il y a de cernes sur la pièce. Donc oui, il y en a beaucoup, ça peut dater. Il n'y en a pas beaucoup, ça ne va pas dater. Et après, on va regarder écorce, pas écorce. Et là, du coup, ça répond à l'autre question, est-ce que ça va être précis? Et donc, ça, on fait ça pièce après pièce, et une fois qu'on a une sélection, bah, on commence à prélever les pièces les plus intéressantes. Pour éviter de faire des trous partout, parce qu'après, c'est aussi du patrimoine architectural qui peut être valorisé, et on va éviter de le dégrader inutilement. Au niveau de l'équipement, on se protège pas mal, parce que bah, le but du jeu, c'est que bah, là, on est encore jeune, on va dire, on a la trentaine, on aimerait bien rêver jusqu'à l'âge de la retraite. Et du coup, c'est quand même des choses qui sont assez périlleuses. On grimpe dans des bâtiments qui sont bah, souvent en cours de travaux, des fois dans un état, on va dire, d'origine, assez précaire. Donc on se protège contre les chutes, on se protège contre les impacts avec un casque. Et c'est vrai qu'on porte un masque respiratoire, parce que quand on prélève les bois, on est juste derrière la carotteuse. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la poussière de chute chêne est aussi toxique que la poussière d'amiante. Donc on porte des masques FFP2 pour protéger nos voies respiratoires. Ce qui était assez compliqué d'ailleurs de se fournir ces derniers temps avec le Covid, parce que on a eu plus de mal à avoir des masques, mais on y arrive quand même. Pour anecdote.
L'anecdote Covid.
Alors concrètement, pour la Maison des Loups, pour avoir un cas concret, et l'idée, ça va être de dater l'état antérieur de la charpente. À l'heure actuelle, la charpente a été modifiée, elle a été rabaissée. Et donc du coup, on voit quand même que les pièces qui sont actuellement présentes dans la charpente ont des assemblages vides, ont des mortaises vides, qui du coup ne correspondent pas à l'état actuel. Donc c'est probablement ce qu'on appelle des pièces en réemploi, donc c'est-à-dire qu'elles ont été réutilisées pour cette charpente-là après une utilisation antérieure. Et le plus vraisemblable en fait, c'est que c'est la même charpente qui a été modifiée et dont les pièces ont été réutilisées pour faire une deuxième charpente. Donc ce qu'on va faire pour avoir ce premier état de la charpente, c'est qu'on va prélever 6 pièces parmi les plus pertinentes qui nous permettront de dater finalement un état qui est disparu mais qui correspond peut-être finalement à ce qu'on a de visible en façade ou sur le reste du bâtiment. Donc l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est archéologue de formation, et avant de faire le moindre prélèvement, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a en face de nous. Est-ce que c'est une charpente qui est homogène? Est-ce que c'est une charpente qui est remaniée? Et donc pour réussir à avoir des certitudes, on a différents critères d'observation. On regarde par exemple les traces d'outils. C'est-à-dire que sur une pièce de charpente, on va regarder quel outil était utilisé pour les carrières, c'est-à-dire pour transformer le tronc qui est rond en pièce de charpente à section carrée. Et donc on peut avoir des traces de scie, on peut avoir des traces de doloir, c'est une sorte de hache qui est spécifique pour cette utilisation. Et donc du coup, on va aussi regarder des fois les traces d'usure qu'on peut avoir sur le tranchant. Et ces traces-là, si elles sont homogènes sur toutes les pièces, c'est qu'elles ont été écarrées par le même outil et c'est qu'elles sont potentiellement contemporaines. Autrement, des fois, on regarde les numérotations pour voir si les pièces sont cohérentes. Si par exemple, sur un pan de bois, on a 18 poteaux, si les pièces sont numérotées de façon continue de 1 à 18, c'est que potentiellement la structure n'a pas été bouleversée. On a pas mal de critères comme ça, d'analyse, qui nous permettent de savoir si on est face à quelque chose de cohérent ou pas.
Vous aviez découvert ce matin les traces d'un outil qui présentait un défaut.
Par exemple, ce matin, très concrètement, là, sur cette maison du 28. Donc sur cette maison Achillus, quoi. Du coup, on a vu effectivement un outil qui avait un défaut et qui était visible sur absolument toutes les pièces de la même cloison. Donc, c'est ce qui nous a permis de se dire, en fait, cette cloison-là, on n'a pas d'assemblage, elle a peut-être été remaniée, mais les différentes pièces que l'on voit d'un bout à l'autre du bâtiment ont été écarries avec un outil qui est identique parce qu'il a laissé le même défaut, la même brèche dans son tranchant qui est encore visible à l'heure actuelle. Je crois que j'ai fait le tour.
C'est super. Archéologue, menuisier.
Et je fais très bien les barbecues aussi. Mais ça, c'est un talent que je garde en interne.
On poursuivra l'explication de la méthode de datation par le bois après la musique dans ce mag. On parlait là des méthodes de prélèvement. On parlera ensuite du travail en laboratoire effectif grâce à une vaste base de données qui permet de corréler les nouveaux prélèvements de bois avec les anciens, permettant de dater à la saison près la période d'abattage. A sign of time. I lost my life, forgot to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside. A woolen glove. But I know today.
CFM en Tarn-et-Garonne, le MAG.
On parle dendrochronologie dans ce MAG aujourd'hui en mode reportage, puisque la région finance la venue de dendrochronologues en pays Midi-Quercy afin de dater précisément à la saison près la période d'abattage des bois ayant servi de matériaux de construction au patrimoine bâti, comme la maison des loups de Caylus, où on retrouve Axel Marais de l'entreprise Dendrotech. Alors oui, comment ça marche après vous rentrez chez vous, donc alors pas en Bretagne, mais je sais plus.
Angoulême. Et donc du coup, une fois qu'on est rendu au laboratoire, c'est la partie la plus longue, parce qu'en fait, pour une journée sur le terrain, on en a à peu près 4 au labo. Et donc du coup, on va traiter les échantillons pour vraiment mettre en valeur les limites de cerne. C'est vraiment ça qui nous permet d'évaluer la croissance de l'arbre au fur et à mesure de sa vie, en fonction du climat. Plus le cerne est large, plus le climat a été favorable à l'arbre. Et à l'inverse, quand il est petit, c'est qu'il a été défavorable. Et donc on va préparer l'échantillon pour qu'on ait une lecture très nette de ces largeurs de cerne. On va les mesurer les uns après les autres, ce qui va nous produire une courbe. Et cette courbe, du coup, sera, comme je disais, représentative du climat. Et une fois qu'on la compare à des référentiels qu'on a construits depuis des années, depuis les années 80 en France, le plus souvent, on pourra vraiment dater la pousse de l'arbre et donc ensuite dater son abattage indirectement.
Mais pardon, mais n'importe qui peut dater exactement un arbre, il suffit de compter les petits cercles qu'il y a autour.
C'est la nuance, effectivement, là on peut donner l'âge de l'arbre. C'est qu'effectivement, quand on regarde une section d'un arbre, on compte les cercles, donc les cernes, et on peut, en prenant un peu de temps et en ayant une bonne vue, on peut dire quel âge a l'arbre. Nous, vraiment, on peut donner l'âge, mais c'est une info qui n'est pas très intéressante, en fait, le plus souvent. Nous, on va vraiment donner la période pendant laquelle il a poussé. On peut dire cet arbre, oui, il a 80 ans, mais par exemple, il a poussé entre 1320 et 1400. Et c'est cette information-là qui a vraiment de l'intérêt, parce que si l'arbre a poussé jusqu'en 1400, c'est que potentiellement, la charpente ou le plancher dont il est issu, elle, lui, est mis en œuvre en 1400 ou 1401. Et c'est cette information-là qui intéresse souvent les gens qui nous contactent.
C'est un travail de chimie ? De quoi ?
C'est purement physique. À la base, c'est une technique qui est issue de la biologie. C'est même un principe qui repère anciennement. Léonard de Vinci, pour la petite histoire, avait réussi à faire le lien justement entre la prise de diamètre d'un arbre et le climat. Et c'est un travail qui est utilisé dans les versions contemporaines aux États-Unis au tout début du XXe siècle par un dénommé Douglas, qui lui voulait étudier les variations du climat à partir des séquoias, qui ont l'avantage d'avoir une très grande durée de vie. Et donc voilà, c'est une technique qui est plus physique et qui est plus inspirée des sciences de la vie à la base.
Et ça peut vous être utile du coup peut-être pour rassembler des données niveau météorologie aussi là.
Alors effectivement, il y a en fait la dendro, nous on l'utilise vraiment appliqué au patrimoine, mais c'est utilisé pour le climat. C'est aussi utilisé en foresterie pour étudier le rythme de croissance des parcelles forestières et donc leur rendement. Il y a vraiment différentes utilisations de cette méthode-là. Nous on l'applique strictement qu'au patrimoine.
Alors là, vous êtes à Caylus aujourd'hui, vous êtes un peu en tenue de chantier avec votre espèce de grosse visseuse perceuse. C'est quoi une formation pour être dendrochronologue ?
Alors nous, du coup, on est archéologue de formation. Parce qu'avant de faire des trous, en fait, sur une charpente, il faut savoir ce qu'on veut prélever. Donc du coup, vraiment, nous prérequis, le moindre prélèvement, c'est de réussir de savoir qu'est-ce qu'on a en face de nous, où commence la charpente, où elle s'arrête, qu'est-ce qui correspond à sa mise en œuvre, qu'est-ce qui correspond à une réparation. Donc ça, c'est vraiment un travail indispensable avant le moindre prélèvement, ce qui fait que nous, notre formation d'archéologue nous est très utile. Mais effectivement, il y a d'autres dendrochronologues qui, eux, sont issus des sciences de la vie. Donc aussi du coup, ça nous arrive de bosser dans des musées, avec des particuliers, avec du patrimoine qui est déjà valorisé. Et donc du coup, pour ne pas dégrader ce qui a déjà été fait au niveau esthétique, on rebouche aussi des prélèvements avec des bouchons en chaîne. Comme ça, l'idéal, c'est qu'une fois qu'on a restitué une bonne teinte, on peut faire des échantillons qui passent complètement inaperçus. C'est vraiment l'idée, nous, c'est d'étudier le patrimoine, mais pas de le massacrer. Donc on a vraiment développé des techniques pour réussir à faire les choses de la façon la plus invisible possible. Déjà, voilà, comme je disais tout à l'heure, on évite les prélèvements à des endroits qui pourraient avoir une incidence mécanique néfaste. Et puis après, on rebouche effectivement pour que, du coup, ça passe complètement inaperçu.
De toute façon, le trou a la taille d'une cheville, vous disiez.
C'est ça. Mais même un trou de cheville, des fois, ça peut être un peu embêtant, surtout sur des parties qui sont moulurées. On bosse des fois sur des charpentes qui ont été sculptées, qui ont eu un gros décor. Donc là, c'est dommage, par exemple, sur une sculpture d'une personne, de lui mettre un troisième œil en plein milieu du front. Donc en l'occurrence, si on prélève à cet endroit-là, on va ensuite reboucher de façon la plus propre possible.
Alors pour la petite question, vous êtes ici sur demande donc du PETR Midi-Quercy. Si moi j'ai envie de faire dater ma charpente, ça me coûte combien à peu près ?
Ah ça c'est la grosse question du coup. Il y en a une grille tarifaire du coup qu'on peut détailler au besoin à la demande. En fait nous la première question c'est pas tant sur le coût, c'est sur la faisabilité. Parce qu'effectivement le bois est un organisme vivant. qui ne va pas forcément réagir de la même façon au climat, en fonction de son essence, en fonction de son terroir, en fonction de son lot de soupe, de pousse. Et la toute première question, avant de savoir nous combien ça coûte, c'est déjà, est-ce qu'on peut le faire de façon raisonnable pour qu'effectivement le commanditaire ait un retour sur investissement.
Si je veux vendre ma maison du 17e, ça vaut le coup. Si ma maison elle a été faite il y a deux générations, ça sert à rien.
Ça dépend d'une logique de marché. Après, l'acheteur est plus ou moins sensible à cet argument. Effectivement, on bosse avec des gens qui font des dendros pour simple curiosité déjà, pour savoir de quand date la maison qu'ils ont sous les yeux depuis longtemps. Il y en a d'autres qui font aussi effectivement ça avec une logique de plus-value. Il y a aussi des gens qui font des dendros pour aider à un classement MH, parce qu'effectivement, une dendro atteste de la date de construction d'une charpente ou d'un plancher, et partant de là, c'est une pièce qui est très intéressante pour appuyer une demande de classement.
Donc, comme vous n'avez pas répondu, c'est que c'est super cher.
La notion super cher dépend d'une personne à l'autre. C'est effectivement le chiffre qui pourra revenir le plus souvent, c'est autour de 2000 euros pour un particulier.
Votre plus belle performance?
Alors, les plus belles performances, ça dépend sur quel plan on se situe. On a des fois on a eu des bâtiments qui sont très connus et qu'on a réussi à vieillir de plusieurs décennies. On a le cas du château de Valençay, par exemple, qu'on a vieilli de 40 ans. Il n'y avait pas de source écrite qui permettait de documenter une des tours du château. Et en fait, par la dendro, on a réussi à vieillir d'une quarantaine d'années. Et des fois, au niveau performance, on a aussi de dater des bois qui sont minuscules. Un simple charbon, des fois, peut être daté par dendro, alors que finalement un charbon c'est minuscule.
Alors le charbon il est carbonisé, comment ça marche là? Je comprends plus, comment vous pouvez compter les cerneaux?
Toujours quand on regarde bien un charbon, on finit par voir des limites de cernes. Et partant de là, on peut les mesurer tout pareil et les dater. Donc un bâtiment qui est sur un site archéologique qui a été détruit suite à un incendie peut également être daté, pour peu qu'on puisse encore observer les limites de cernes sur le charbon en question. On date aussi des épaves, par exemple, issues de fouilles subaquatiques. Un bateau qui a fait naufrage et qui est retrouvé actuellement, en sortant les pièces, on a exactement la même technique. On mesure les largeurs de cernes. Et puis, quand on a le dernier cerne sous l'écorce, qui est formé juste avant l'abattage, et bien, comme pour le bois bâti, on a la date d'abattage et donc la date de construction du bateau.
Outre votre grosse perceuse, ça marche avec... pardon, je ne me rappelle plus le nom que vous avez utilisé.
La carotteuse.
Ça marche avec un logiciel, vous rentrez les données.
Oui, après, c'est vrai que là, il y a le côté un peu physique, on est sur le terrain, on est équipé pour escalader les charpentes, mais après, c'est un métier qui est assez statique. On se met devant du matériel de laboratoire, donc c'est une loupe binoculaire et un banc de mesure pour mesurer les largeurs de cernes, les échantillons, et tout le reste fait par ordinateur, par des logiciels qui permettent justement d'avoir des analyses statistiques pour comparer des courbes les unes entre elles.
On adore les résultats, merci beaucoup, je vous laisse bosser, merci.
C'est vrai que du coup, il y a des aspects qui sont assez durs à décrire en a cappella. C'est vrai qu'il y a des aspects qui sont plus visuels quand même, mais bon, voilà.
On entendait Axel Marais de l'entreprise Dendrotech.
Au revoir, bonne journée à vous.
Venu en Pays Midi-Quercy grâce à un financement de la région pour l'expertise du patrimoine par la datation du bois, une méthode associant donc dendrochronologie et archéologie. Ce mag est à réécouter en podcast sur cfmradio.fr. Il sera rediffusé à 17h et à 21h30. Voici les